La radio CFAQ 88.3 FM et les étudiants et étudiantes pro bono du Canada, section Université de Sherbrooke, vous présentent le balado pro bono pour l'accès à la justice.
Bonjour et bienvenue à ce balado portant sur la présomption d'innocence. Le contenu présenté dans cette capsule a été préparé par trois étudiants inscrits au baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke, soit Nicolas Beaulieu, étudiant en première année.
Élodie Bussière, étudiante en première année également.
Et Paul-David Traoré, étudiant en troisième année.
Le contenu qui est présenté dans cette capsule a été réalisé sous la supervision et suivant les conseils de Maître Samuel Bouchard. Ce balado aujourd'hui s'inscrit comme le dernier balado d'une série de capsules audio portant sur le droit criminel et pénal qui ont été réalisées dans le cadre d'étudiants pro bono du Canada, section Université de Sherbrooke. Dans cette série de balados, nous avons donné de l'information juridique concernant certaines questions et demandes que nous avons reçues de divers organismes de la ville de Sherbrooke. On espère que notre contenu sera vous être utile, qu'il pourra orienter les gens dans leurs recherches et qu'il simplifiera l'accès à l'information juridique pour tous.
Avant de présenter l'organisme partenaire de notre balado, notre mise en garde habituelle s'impose. Le contenu créé par les étudiants et étudiantes bénévoles ne contient aucun conseil juridique. Il a été préparé avec l'aide d'étudiants en droit bénévoles, d'étudiants pro bono du Canada, section Université de Sherbrooke. Les étudiants de PBC ne sont ni avocats, ni notaires et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. Le contenu créé ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou un notaire.
Ce balado portant sur la présomption d'innocence a été développé suite à une demande du Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke. Cet organisme accompagne et supporte les jeunes de 16 à 35 ans dans leur démarche socio-professionnelle. Celui-ci fournit du support dans la recherche, l'intégration et le maintien en emploi, procure des informations scolaires et professionnelles et peut vous accompagner dans des démarches de stage, d'observation et d'exploration. Carrefour Jeunesse Emploi peut aussi vous fournir un accompagnement vers un retour à la santé et vous soutenir dans le développement de projets personnels, professionnels ou de bénévolat et d'implication sociale. Le tout est réalisé par des activités de groupe, ou par des accompagnements individualisés, en présentiel ou en virtuel.
Comme mentionné au début, notre dernière capsule d'aujourd'hui porte sur la présomption d'innocence. Il s'agit d'un concept essentiel et l'un des fondements de notre droit criminel canadien. Pour nous accompagner dans notre balado aujourd'hui et pour répondre à nos questions, nous avons la chance d'être en compagnie aujourd'hui de notre juriste invité, professeur Marie-Pierre Robert de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Tout d'abord, professeur Robert, est-ce que vous allez bien?
Oui, bonjour, très bien, merci.
Et puis, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours en tant que professeur ainsi que de votre champ d'expertise?
Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé ce poste après avoir obtenu un doctorat en droit à l'Université McGill. Donc, je me consacre à l'enseignement du droit pénal, tant canadien qu'international, ainsi qu'à la recherche à ce niveau-là. Je suis aussi la cofondatrice et la directrice de la maîtrise en pratique du droit criminel et pénal à notre faculté.
Parfait. Merci beaucoup.
Donc, tout d'abord, il importe de donner une certaine définition sommaire du droit criminel. Le droit criminel cherche à établir certaines règles de conduite minimales pour vivre en société, en prévoyant des conséquences pour les personnes qui ne respectent pas celles-ci. Les infractions criminelles sont donc basées en grande partie sur les valeurs de la société. Le droit criminel vise plusieurs objectifs en lien avec ce principe. D'abord, dissuader les délinquants, punir les comportements antisociaux, réparer le tort causé à la société et favoriser la réinsertion sociale des délinquants. Ces objectifs sont particulièrement importants lorsqu'il faudra déterminer la peine à infliger à un individu qui a commis un crime.
La présomption d'innocence est un concept extrêmement important en droit criminel canadien. Il s'agit d'un des fondements essentiels de notre droit et il modèle la façon dont nos institutions traitent les dossiers criminels. On retrouve la présomption d'innocence dans la Charte canadienne à l'article 11D. Le fait que ça soit dans notre Constitution, ça fait en sorte qu'on ne peut pas passer outre ce concept dans une loi. La présomption d'innocence, telle que définie dans la Charte, indique que toute personne qui est accusée d'une infraction a le droit d'être présumée innocente tant qu'elle n'a pas été reconnue coupable par un tribunal. Ce concept implique plusieurs choses. Tout d'abord, l'accusé n'a pas à prouver qu'il est innocent. Il n'aura pas l'obligation d'apporter des arguments indiquant qu'il n'a pas commis l'infraction, puisqu'il est présumé innocent et donc on présume qu'il n'a pas commis l'infraction. C'est donc à dire ici qu'il ne faut pas prouver, dans le cadre d'un procès, que l'accusé n'a pas fait les gestes. En l'occurrence, il faudra prouver l'inverse, c'est-à-dire que l'accusé a commis l'infraction. Par exemple, si une personne est accusée de vol dans un magasin, elle n'a pas l'obligation de se défendre en apportant l'argument qu'elle ne peut pas avoir commis le vol puisqu'elle n'est pas allée au magasin cette journée-là. Ce sera à la personne qui porte des accusations pour vol d'apporter des preuves qui indiquent que l'accusé a bel et bien commis le vol.
La tâche de prouver que l'accusé a commis l'infraction revient donc à la poursuite, qu'on appelle aussi le poursuivant ou la poursuivante, c'est-à-dire la personne qui allègue que l'infraction a été commise par l'autre personne. La plupart du temps, le poursuivant sera la couronne. On réfère par l'expression de la couronne à la reine. On va dire par exemple que c'est la reine, donc le gouvernement, qui poursuit l'accusé. On s'entend que c'est pas vraiment la reine au sens propre qui poursuit l'accusé. C'est juste qu'au Canada, pour les infractions qui sont reliées au droit criminel, c'est généralement le ministère public qui va poursuivre l'accusé. Au Québec, la poursuivante sera le DPCP, c'est-à-dire le directeur des poursuites criminelles et pénales.
Pour prouver qu'une personne est coupable, la poursuite devra tout d'abord présenter une preuve, c'est-à-dire qu'elle aura le fardeau de présentation de la preuve. Le concept est assez simple. En résumé, on cherche ici à démontrer qu'il existe une preuve suffisante qui pourrait supporter notre argument comme quoi l'accusé a commis l'infraction. Il faut notamment de la preuve portant sur l'ensemble des aspects de l'accusation pour que la preuve soit reconnue comme suffisamment importante.
Auriez-vous des exemples de réussite ou d'échec au fardeau de présentation de la preuve, professeur Robert?
Oui, mais dans la majorité des cas, ce fardeau-là va être rempli et l'État va réussir à présenter une preuve sur tous les aspects de l'infraction. Par contre, il peut y avoir des cas où il y a un échec à cet égard-là. Je peux vous donner deux exemples. Donc, premièrement, si la victime vient témoigner, elle explique qu'elle a été volée par un voleur masqué, mais qu'elle n'est pas capable, le jour du procès, d'identifier dans la salle qui est la personne qui l'a volé. Donc, si on n'est pas capable de faire le lien avec l'accusé, le fait que c'est lui le voleur, s'il n'y a pas de preuve sur cet élément qui est l'élément de l'identité, bien, on ne pourra pas le reconnaître coupable. Un autre exemple, ça va être si une victime vient changer sa version des faits par rapport à ce qu'elle a soutenu auprès des policiers. Par exemple, si on est dans un cas de violence, de voie de fait, où l'accusé est accusé là, d'avoir frappé la victime, bien, si la victime, le jour du procès, vient changer sa version puis vient dire que non, l'accusé ne l'a jamais frappé, que, par exemple, elle est tombée en bas des escaliers, mais là, on n'aura aucune preuve sur laquelle se baser pour reconnaître sa culpabilité.
Merci. Si le fardeau de présentation de la preuve est complété, c'est-à-dire qu'on réussit à prouver qu'une preuve suffisante existe, on passe à la deuxième étape. La poursuite devra prouver que la preuve qu'elle a apportée est convaincante. Elle aura donc le fardeau de persuasion. Il faudra que la poursuite arrive à prouver, hors de tout doute raisonnable, que la personne a commis l'infraction. Le critère « hors de tout doute raisonnable » sera expliqué plus tard dans la capsule.
Comme énoncé, la présomption d'innocence amène un critère de preuve élevé, le fameux « hors de tout doute raisonnable ». Bien qu'on va définir ce critère plus clairement plus tard, cela signifie en gros qu'il faut quasiment avoir la certitude que l'accusé a commis l'infraction pour que celui-ci soit reconnu coupable. Cela peut donc amener de la frustration dans certaines circonstances ou dans certains dossiers. Par exemple, certaines fois, des personnes sont accusées d'une infraction et la poursuite possède des preuves incriminantes qui permettent de croire que l'accusé puisse avoir commis le crime. Cependant, puisque le tribunal juge que les preuves ne sont pas suffisantes, les accusés vont être relâchés. Ce genre de situation peut apporter de l'incompréhension chez la population. Donc, pourquoi la présomption d'innocence est-elle autant importante dans notre droit canadien?
Le but de la présomption d'innocence est de minimiser les injustices. Donc, plus le degré de preuve est élevé, plus on se rapproche de la certitude et plus il y a de chances que l'accusé qui est reconnu coupable soit effectivement coupable. Cependant, étant donné que le niveau de preuve est très élevé, certaines personnes qui ont commis des infractions, mais dont la preuve ne sera pas suffisante pour prouver leur culpabilité, seront libérées. Le dilemme ici est donc de se demander s'il vaut mieux avoir 10 coupables en liberté plutôt qu'un seul innocent en prison. Le droit canadien a choisi la première option. En effet, notre système juridique est façonné de façon à limiter le risque d'erreur de condamner une personne innocente. Le coût associé à la présomption d'innocence est important. Certaines personnes accusées pourront être acquittées malgré l'existence d'une preuve tendant à démontrer leur culpabilité. Mais que cette preuve ne rencontre pas le critère de hors de tout doute raisonnable. Cependant, la justice criminelle canadienne considère que le coût de trouver une personne innocente coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis serait bien pire.
Nous passons maintenant à un autre élément très important, le niveau de preuve hors de tout doute raisonnable. Comme énoncé plus haut, pour qu'une personne soit reconnue coupable, il faut que la preuve apportée par la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis le crime. Le critère hors de tout doute raisonnable est un concept relativement complexe. C'est pas une formule mathématique qui permet d'arriver à un résultat précis et bien délimité. Ça va dépendre à chaque fois des faits en jeu, de l'infraction ainsi que de la preuve présentée. Il y a donc plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Souvent, on fait l'analogie avec un casse-tête. Pour assembler le casse-tête, ça prend plusieurs pièces. Certaines fois, pour être en mesure de voir l'image finale du casse-tête, on n'a pas besoin d'avoir toutes les pièces. Certaines pièces seront plus d'importance que d'autres et permettent de voir plus de détails sur l'image finale.
Pour bien comprendre le niveau de preuve hors de tout doute raisonnable, il faut s'imaginer une échelle. En bas de l'échelle, on a la certitude que l'accusé n'a pas commis le crime. En haut de l'échelle, on a la certitude que l'accusé a commis le crime. Au milieu, on a le point moyen. Est-ce qu'il y a plus de chances que l'accusé ait commis le crime ou non? Ce point ne nous intéresse pas en droit criminel. En effet, la preuve hors de tout doute raisonnable n'est pas une question de probabilité. Il ne faut pas se demander si c'est probable ou vraisemblable que l'accusé ait commis l'infraction. Ce n'est également pas une question de cocher des éléments sur une liste et de se baser sur le nombre d'éléments cochés. Le critère hors de tout doute raisonnable se trouve juste avant la certitude. C'est donc dire qu'atteindre ce critère nécessite une preuve très convaincante.
Professeur Robert, auriez-vous un exemple qui permet de mieux comprendre que la preuve hors de tout doute raisonnable, c'est pas une question de probabilité?
Oui, avec plaisir. Donc, la question qu'il faut se poser pour savoir si une personne ou un jury est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, c'est de savoir est-ce qu'il y a ou il n'y a pas une autre possibilité raisonnable que la culpabilité de l'accusé. Donc, je vous donne un exemple. Supposons qu'on a une garderie dans laquelle un enfant est mort empoisonné. Supposons qu'il y a 49 verres de lait qui ont été préparés par Pierre et un verre de lait qui a été préparé par Marie. 50 enfants dans la garderie, chacun avait un verre de lait. C'est le lait empoisonné qui a causé le décès de l'enfant. Malheureusement, on ne sait pas lequel des verres de lait a empoisonné l'enfant et qui a préparer le verre de lait problématique. Ici, il faut se poser la question, si on veut accuser ces personnes-là, est-ce qu'on pourrait être convaincu hors de tout doute raisonnable du fait que c'est l'un ou que c'est l'autre qui a empoisonné le lait? Je ne pourrais pas être convaincu hors de tout doute raisonnable que Pierre a empoisonné le lait parce qu'il y a une autre possibilité, c'est-à-dire que ce soit Marie qui ait préparé le verre de lait empoisonné et inversement. Ce n'est pas une question de probabilité. On ne va pas réfléchir en se disant il y a 49 chances sur 50 que ce soit Pierre qui soit coupable parce que ce n'est pas une question de hasard. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas comme une loto qui détermine lequel des deux a empoisonné l'enfant. C'est la volonté humaine. C'est lequel des deux avait le motif, le mobile, lequel des deux a choisi de commettre ce geste-là. Donc, dans ce cas-ci, dans la mesure où il y a deux possibilités raisonnables, il y aurait forcément un doute raisonnable et il serait malheureusement pas possible de les trouver coupables au niveau criminel.
Comme indiqué dans son nom, le critère hors de tout doute raisonnable nécessite qu'il ne subsiste plus de doute raisonnable pour atteindre ce critère. Le doute raisonnable a été défini dans une affaire importante de la Cour suprême, soit l'affaire Lifchus. Un doute raisonnable, ça repose sur le bon sens et la raison, puis ça doit être fondé soit sur la preuve ou l'absence de preuve. Il faut donc se baser sur notre logique et pas sur des préjugés ou de la sympathie envers l'accusé. Il faut vraiment être impartial. Un doute raisonnable également, c'est pas un doute qui va être frivole ou imaginaire. Il faut que le doute soit fondé. C'est très important également, le critère hors de tout doute raisonnable ne concerne pas chaque élément de preuve qui est apporté par la poursuite. Il ne faut pas évaluer chaque élément pour savoir si ça satisfait à l'exigence et rejeter les arguments qui ne la rencontrent pas. Le critère hors de tout doute raisonnable, ça concerne l'ensemble de la preuve qui est apportée par la poursuite. Il faut donc se baser sur l'entièreté des preuves ainsi que sur le manque de preuves selon les circonstances. Est-ce que vous auriez des exemples de doutes raisonnables, professeur Robert?
Oui, outre l'exemple de Verdelet que je viens de vous donner, on peut référer à l'affaire Roson, Gilbert Roson, le fondateur du festival Juste pour rire, qui a été acquitté en décembre 2020 de viol et d'attentat à la pudeur, dans un contexte où le juge du procès a vraiment fait jouer le doute raisonnable ou n'a pas été convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. La plaignante avait témoigné du fait qu'elle avait été agressée et qu'il y avait eu des relations sexuelles non consentantes. Par contre, Roson avait amené un témoignage contradictoire et une version des faits différente selon laquelle les relations sexuelles auraient été consentantes. Ce qu'il faut comprendre dans ce type de dossier-là, c'est que le juge n'a pas à choisir entre les deux versions. Ce n'est pas une question de dire quelle est la version la plus probable. Si Roson a été acquitté, ça ne veut pas dire que le juge a plus cru Roson que la plaignante. Ça veut simplement dire qu'il n'a pas été capable d'écarter totalement cette possibilité que lui amenait pour être convaincu, hors de tout doute raisonnable, du fait que l'infraction a bel et bien été commise.
Merci beaucoup pour l'exemple. Ainsi, pour qu'un individu soit condamné, il faut que la poursuite prouve, hors de tout doute raisonnable, trois différents éléments. Tout d'abord, elle doit prouver l'élément matériel du crime. Autrement dit, qu'un acte prohibé a été effectué. En langage juridique, on va appeler ça l'actus reus. L'élément matériel de l'infraction, c'est le fait d'avoir eu un comportement qui est prohibé. Une même infraction implique généralement plusieurs éléments matériels, tout comme il peut arriver que deux infractions prohibent un même acte. On va vous donner un exemple. Par exemple, l'infraction de voie de fait. L'infraction de voie de fait comporte deux facteurs dans son actus reus. Tout d'abord, il faut qu'il y ait la présence du fait d'avoir employé, tenté ou menacé d'employer la force contre une autre personne. Puis par la suite, il faut aussi prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'autre personne ne consentait pas.
Ensuite, la couronne doit prouver l'élément mental de l'infraction, c'est-à-dire l'intention associée au geste prohibé. En langage juridique, encore une fois, on appelle ça la mens rea. C'est important de noter que cet élément ne requiert pas la volonté ou la connaissance qu'on fait quelque chose de mal ou d'illégal. Il concerne l'intention de faire le geste ou de produire la conséquence prohibée ou encore la négligence face à la possibilité de produire la conséquence prohibée. Pour reprendre l'exemple précédemment mentionné avec l'infraction de voie de fait, la mens rea exigerait pour cette infraction, premièrement, de poser ses gestes de façon intentionnel. Deuxièmement, que cela soit fait avec la connaissance du fait que la personne visée n'y consentait pas.
Le but de cet élément est d'éviter de punir les personnes qui sont moralement innocentes. Par exemple, quelqu'un qui se trompe de sac à dos en sortant d'un transport public. Cette personne commettrait peut-être l'élément matériel associé à l'infraction de vol, mais il n'y aurait pas l'élément mental puisque cette personne n'avait pas l'intention de prendre le sac à dos de quelqu'un d'autre. Elle croyait qu'il s'agissait du sien. Il serait alors inapproprié de la déclarer coupable de vol. Donc finalement, la poursuite devra aussi prouver ce qu'on appelle l'identité, c'est-à-dire que la personne qui a commis l'infraction est bel et bien l'accusée.
Si l'un ou l'autre de ces éléments n'a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable, l'accusé ne doit pas être reconnu coupable puisque la présomption d'innocence n'aura pas été renversée. Il est essentiel de mentionner que l'accusé aura l'occasion de présenter des moyens de défense qui pourraient nier un ou plusieurs des éléments qui ont été mentionnés précédemment. Par exemple, la défense d'accident peut permettre d'établir que l'accusé n'avait pas l'élément matériel ou l'élément mental requis, car l'accusé n'avait pas le contrôle de ses gestes. Il résultait plutôt d'un accident.
Le principe de la présomption d'innocence a une importance telle en droit canadien qu'il est inscrit dans la Constitution, comme on l'a mentionné précédemment. L'alinéa 11D de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit en effet qu'en matière pénale et criminelle, tout inculpé a le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable. La présomption d'innocence est donc en lien avec plusieurs autres droits, dont celui de la publicité du procès et le droit au silence. Professeur Robert, pouvez-vous nous expliquer le lien entre la présomption d'innocence et le droit au silence de l'accusé?
Oui, on a bien dit que c'est la couronne qui doit apporter la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Or, elle doit le faire par ses propres moyens, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas, elle ne peut pas forcer l'accusé à participer à la constitution de cette preuve-là. Donc, si les policiers peuvent interroger l'accusé, il a un droit au silence et il n'est pas obligé de répondre aux questions des policiers sur ce qui s'est passé le jour des événements, pourquoi il était sur place, quelle est sa relation avec la victime, tous ces éléments qui, par la suite, pourraient être retenus contre lui et former une preuve dans son procès criminel. Donc, comme il est présumé innocent, il n'a pas à se justifier, il n'a pas à participer à forger la preuve contre lui-même. Cela va valoir tant au niveau de l'enquête qu'au moment du procès. Donc, même le jour du procès, l'accusé n'aura pas besoin de s'expliquer, n'aura pas besoin de témoigner. Il pourra le faire s'il le souhaite, mais il n'a aucune obligation à cet égard-là et les tribunaux ne pourront pas tirer d'inférence négative du fait qu'il n'a pas témoigné parce qu'encore une fois, il est présumé innocent.
Merci beaucoup pour ce lien. Comme mentionné précédemment, la présomption d'innocence implique que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. Néanmoins, dans certains cas, ce fardeau de preuve sera allégé de façon à faciliter la preuve de la poursuite.
C'est par exemple le cas des infractions dites de responsabilité absolue. Pour ce type d'infraction, le procureur de la couronne ne doit prouver que l'élément matériel de l'infraction. Autrement dit, il sera uniquement nécessaire de prouver que l'infraction reprochée a été commise. Il ne sera pas nécessaire de démontrer que la personne avait l'élément mental derrière celle-ci. Par exemple, dépasser la limite de vitesse constitue une infraction du Code de la sécurité routière. Une telle infraction pourrait mener à l'obtention d'une amende. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une infraction de responsabilité absolue. Le fait de ne pas savoir qu'on roulait à 100 km/h et non à 70 km/h, comme l'on croyait, n'est donc pas une excuse valable. En effet, uniquement la preuve d'éléments matériels est nécessaire, soit le fait d'avoir dépassé la limite de vitesse. Il s'agit souvent d'infractions ayant une gravité moindre et qui ne mèneront jamais à une peine d'emprisonnement.
Vous écoutez le balado Pro Bono pour l'accès à la justice, une collaboration d'étudiants et d'étudiantes Pro Bono du Canada, section Université de Sherbrooke et la radio CFAQ 88.3 FM.
Professeur Herbert, pourriez-vous nous expliquer quelle est l'utilité des infractions de responsabilité absolue dans notre société?
Oui, ce sont des infractions qu'on utilise principalement par commodité administrative, parce que ça va être plus simple de cette façon-là. Ça va être plus facile de reconnaître la culpabilité de l'accusé dans un contexte où les enjeux sont très limités. La personne n'a pas de possibilité d'emprisonnement, il n'y a pas de risque de privation de liberté, il n'y aura pas non plus de casier judiciaire ou de répercussions à long terme sur la personne. On parle d'infractions de peu de gravité, comme des infractions relatives à la circulation automobile ou des infractions reliées aux règlements municipaux, d'arrosage de pelouse ou des choses comme ça qui vont mener souvent à des amendes qui sont des petits montants d'argent. Donc, l'idée est de faire respecter certaines lois, faire respecter certains règlements plus facilement, donc en facilitant la preuve de ce type d'infraction. Dans ce contexte, on n'est pas dans un contexte criminel, on va être vraiment plus dans un contexte de régulation pénale qu'on va appeler le droit pénal réglementaire. Et donc, on n'a pas les enjeux dont on a parlé précédemment d'emprisonner un innocent, qui est que le système de justice participe à un système qui en fait crée l'injustice, etc. On n'a pas du tout les mêmes enjeux. Donc, par commodité administrative, on l'accepte dans ce contexte-là.
Il existe également des infractions de responsabilité stricte. Ces infractions de responsabilité stricte ne nécessitent pas la preuve de l'élément mental par la poursuite, comme pour les infractions de responsabilité absolue. Néanmoins, pour ce type d'infraction, l'accusé va avoir la possibilité de prouver soit son erreur de fait ou sa diligence raisonnable. Autrement dit, si celui-ci prouve qu'il a pris toutes les précautions nécessaires qu'une personne raisonnable aurait pris ou qu'une personne raisonnable aurait fait la même erreur que lui, il pourra être acquitté. Différents éléments permettent de déterminer le type d'infraction, soit responsabilité stricte, responsabilité absolue. Mais en cas de doute, les infractions pénales réglementaires, telles qu'expliquées par le professeur Robert, seront présumées de responsabilité stricte. Par exemple, une infraction de stationnement pourrait être considérée comme une infraction de responsabilité stricte. Professeur Robert, pourriez-vous nous donner un exemple de diligence raisonnable qui permettrait à l'accusé d'être acquitté?
Oui, donc quand on parle d'infraction à la circulation automobile, on peut parler d'inspection régulière d'un véhicule. Dans le contexte d'une compagnie qui serait accusée d'une telle infraction, on va parler de est-ce que la compagnie a acheté du matériel adéquat, a par exemple limité la vitesse sur ses camions, a fait des contrôles fréquents, a formé son personnel, a sanctionné les écarts. Donc, une compagnie qui pourrait démontrer qu'elle a pris toutes ces mesures-là pour s'assurer que ses camionneurs respectent la réglementation en lien avec la circulation automobile, par exemple, ferait preuve de diligence raisonnable. En lien avec le stationnement, une personne pourrait faire valoir son erreur de fait raisonnable si elle a payé son stationnement, mais qu'elle s'est trompée de borne. Par exemple, là, s'il y a une borne à droite et une autre à gauche du véhicule et qu'elle a utilisé le mauvais numéro, bien, cette personne-là pourra quand même prouver que c'était pas nécessairement bien indiqué, puis qu'une personne raisonnable aurait pu se tromper de côté. Et comme elle a payé son stationnement, ben elle a quand même fait preuve de diligence. C'est pas une personne qui n'a aucun souci là pour a choisi de ne pas payer et n'a pas de respect pour la réglementation, par exemple.
Aussi, parfois, le code criminel prévoit des présomptions légales. Cela permet encore une fois de faciliter le fardeau de preuve de la poursuite, puisque certains éléments essentiels de certaines infractions seront présumés de sorte que la poursuite n'a pas à les prouver. Par exemple, à l'article 348, alinéa 2 du Code criminel, va prévoir que s'il est prouvé que quelqu'un s'introduit par infraction dans un endroit, à moins de preuves contraires, cette personne est aussi présumée avoir l'intention d'y commettre un crime. Néanmoins, la poursuite devra tout de même prouver les autres éléments de l'infraction et l'accusé conserve la possibilité de présenter une preuve pour repousser cette présomption.
Donc, bien que la Charte canadienne des droits et libertés garantit la présomption d'innocence lors du processus judiciaire, les pratiques sociales ne reflètent pas toujours un tel mode de pensée. En effet, il est courant d'observer des accusés subir un traitement médiatique peu reluisant avant même qu'un verdict de culpabilité ne soit rendu. La justice populaire, particulièrement sur les réseaux sociaux, semble de nos jours de plus en plus répandue. Professeur Robert, quelles sont, à votre avis, les retombées d'un tel phénomène?
Oui, c'est vrai qu'on lit souvent dans les journaux, quand on rapporte des causes judiciaires, on va parfois parler du présumé meurtrier ou du présumé agresseur, qui sont des formulations qui ne vont pas du tout dans le sens de la présomption d'innocence, bien au contraire. Il faut dire par contre que souvent l'utilisation de ces termes-là est tempérée ailleurs dans l'article par la précision selon laquelle les accusations ne sont toujours pas prouvées devant un tribunal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la présomption d'innocence, ça s'applique à l'État. Ça s'applique lors de tout le processus de décision criminelle. Bon, d'abord et avant tout, pour le juge ou le jury. Ce n'est pas une garantie qui s'applique à toute la société et qui s'applique, par exemple, aux médias. Ce n'est pas une garantie qui s'applique non plus à ce que monsieur, madame, tout le monde va écrire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que lorsque des personnes font face à des accusations, entre guillemets, dans les réseaux sociaux, ça peut avoir des conséquences très importantes sur elles, sur leur réputation, sur leur vie. Par contre, ce n'est pas le champ d'action de la présomption d'innocence. Dans une certaine manière, on peut dire que ça n'a pas vraiment de lien avec la présomption d'innocence parce que une personne n'est pas présumée innocente dans la société ou par tout le monde. Elle doit être présumée innocente par l'État et par le tribunal dans le cadre de ses accusations criminelles, lorsqu'elle est inculpée. Alors que dans les exemples de médias sociaux, la personne n'est même pas inculpée. Donc, il n'y a pas d'application, là, si vous voulez, de cette présomption-là. On est dans un autre contexte complètement, un contexte où ce sont des relations des individus entre eux. Et là, s'il y a des recours à y avoir de ce côté-là, on va être vraiment plus dans le champ du droit civil ou de la diffamation et non dans le champ du droit criminel.
La présomption d'innocence et plus particulièrement la preuve hors de tout doute raisonnable engendre un fardeau important pour la poursuite. Cela semble être particulièrement le cas pour certaines infractions, notamment dans des cas d'accusation où la preuve repose sur la déclaration d'une personne et qu'elle sera confrontée à la version de l'accusé sans aucune autre preuve de part et d'autre. Dans les dernières années, il a été possible de suivre certains dossiers très médiatisés, notamment l'affaire Rozon qui avait été mentionnée précédemment dans le balado, où l'accusé, dû à, entre autres, un manque de preuves, est acquitté. Consécutivement à de telles décisions, on assiste souvent à une incompréhension de la part du public et certains pourraient être portés à croire qu'il faille modifier le fardeau de la preuve applicable. Est-ce qu'une telle option est envisageable, à votre avis, professeur Robert?
Bien, c'est pas vraiment envisageable parce que, comme on l'a mentionné, la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est constitutionnalisé à la Charte canadienne des droits et libertés. Ça veut dire que ça fait partie des garanties les plus hautement protégées et qu'on ne pourrait pas décider de modifier, par exemple, le code criminel ou toute autre loi pour décider qu'en matière d'agression sexuelle ou de crimes sexuels plus largement, ça ne s'applique pas. Il faudrait ni plus ni moins modifier la Constitution et là, on sait tous les enjeux que ça implique. Donc, c'est pas une alternative qui est vraiment raisonnable. De toute façon, cette protection constitutionnelle, elle est là pour une raison. Il faut se ramener à ce qu'on a dit au tout début du balado. Elle est là pour éviter des injustices et éviter de trouver coupables des personnes qui, en fait, sont innocentes. Si on abaissait le standard de preuve requis, on augmenterait le risque à cet égard-là et on créerait un autre problème qui serait pas forcément mieux. Donc, peut-être que il y a d'autres alternatives. Peut-être qu'on peut penser à un meilleur accompagnement des victimes dans les dossiers d'agression sexuelle. Peut-être qu'on peut parler d'une prise en charge plus globale, de formation des acteurs pour qu'ils soient plus sensibles à ces questions-là, s'assurer d'évacuer les mythes, les stéréotypes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à plusieurs niveaux, mais je pense pas que ça passe par la question du fardeau de preuve.
Dans le livre Getting Away with Murder, The Canadian Criminal Justice System, l'auteur David Pacioco mentionne qu'il existe une pratique particulière en droit écossais qui permet de prononcer un verdict comme quoi les accusations criminelles avancées envers l'accusé sont non prouvées. En effet, dans ce cas, l'accusé ne va pas être déclaré coupable ni non coupable, mais il va quand même être acquitté. Cela peut se produire lorsque le procès se déroule devant jury et que celui-ci possède des bons éléments de preuve, mais que ceux-ci ne permettent pas d'atteindre une preuve hors de tout doute raisonnable. Est-ce que ce serait, d'après vous, une alternative qui pourrait être intéressante dans notre système juridique canadien?
Ben, honnêtement, je pense pas vraiment. Je pense que notre système reconnaît déjà dans une certaine mesure cette réalité-là. C'est-à-dire que le verdict qui est rendu, c'est coupable ou non coupable. Ça n'est pas coupable ou innocent. Déjà, en utilisant le terme « non coupable », on vient un peu reconnaître l'idée que la culpabilité n'est pas établie. Parmi les personnes qui sont trouvées non coupables, oui, il peut y avoir des personnes contre qui les accusations n'ont pas été prouvées, c'est-à-dire, je ne sais pas selon quels critères on pourrait déterminer que dans le fond, la personne est coupable, mais qu'on n'a pas pu le prouver. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il peut également y avoir des personnes qui sont bel et bien innocentes parmi les personnes qui ont été trouvées non coupables. Et l'utilisation du libellé non prouvé serait peut-être plus problématique à cet égard-là.
Pour vous relancer sur la question qui a été posée tantôt, concernant le traitement peu reluisant qui peut être fait des accusés dans les médias sociaux, pensez-vous que ça pourrait être associé à... Pensez-vous que le problème pourrait être diminué par une plus grande connaissance de la présomption d'innocence par la majorité de la population?
Dans quel sens?
Pensez-vous que si les gens connaissaient mieux les caractéristiques de la présomption d'innocence, ce que ça peut engendrer, ce que ça protège, ils seraient peut-être moins portés à donner un tel traitement aux accusés avant même que le jugement soit rendu, par exemple?
Bien, en fait, je pense que le problème numéro un sur les réseaux sociaux, c'est la question des dénonciations, notamment anonymes, et qui ont lieu en l'absence d'accusations criminelles. Donc, ce n'est pas que les gens vont présumer qu'une personne qui fait actuellement l'objet de procédures judiciaires est coupable d'emblée, c'est qu'ils affirment qu'une personne qui, par rapport à laquelle aucune plainte n'a été déposée à la police, est coupable. Donc, on parle d'un phénomène qui est tout à fait parallèle là, à la justice traditionnelle étatique. Et je suis pas sûre, honnêtement, que ce sont des considérations qui sont fondamentales dans la tête des gens.
Parfait. Donc voilà ce qui conclut notre capsule sur la présomption d'innocence. Merci encore, professeur Robert, d'avoir eu la gentillesse d'accepter de participer à ce balado. Nous tenons d'autant plus à remercier Maître Samuel Bouchard qui nous a conseillé lors de la rédaction de ce balado et qui a participé à la révision de celui-ci. Chers auditeurs et auditrices, nous espérons avoir su répondre à certains de vos questionnements et vous en avoir appris un peu plus sur la présomption d'innocence.